bonjour, bienvenue sur Graphite. Merci d'être avec nous. Nous sommes un groupe de 9 étudiants de l'Université technologique de Compiègne. Et dans le cadre d'un cours sur les sciences et débats publics, nous animerons aujourd'hui l'émission Les Échos de l'innovation. Donc, les Échos de l'innovation, c'est un rendez-vous hebdomadaire dans lequel on aborde différents sujets liés à l'innovation. Nous serons ensemble pendant l'heure et le sujet d'aujourd'hui portera sur l'ingénieur, ses valeurs et ses responsabilités dans ses innovations. Donc, nous aurons dans un premier temps un débat portant sur la question « Est-ce que l'ingénieur est responsable ? Est-ce qu'on doit le tenir responsable de ses innovations ?» On traitera pour cela la question d'un point de vue juridique, puis d'un point de vue moral. Et dans un second temps, nous aurons un deuxième débat sur les valeurs de l'étudiant, le futur ingénieur et la demande dans le monde du travail, le tout bien évidemment séparé par quelques chroniques. Donc, on va commencer par une chronique réalisée par Hugo, portant sur la bombe nucléaire et ses désastres. Donc, comment ça va, Hugo ?
Ça va bien, Souleymane, et toi, comment tu vas ?
Ça va, merci.
Ben, du coup, merci de m'introduire. Du coup, voilà, je vais vous parler de la bombe nucléaire. Vous la connaissez toutes. Vous en avez forcément entendu parler. La bombe atomique est très clairement l'invention la plus diabolique de l'histoire de l'humanité. Sa réalisation est devenue possible grâce aux avancées réalisées sur la nature de l'atome au début du XXe siècle. Mais voilà, je ne vais pas vous parler de l'aspect technique de la bombe nucléaire. Je vais vraiment vous parler de son aspect dévastateur et un peu de son histoire. Donc avant de vous parler plus précisément du rôle de l'ingénieur et de ses responsabilités, laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire de la bombe atomique. Vous le savez sûrement, la bombe atomique est issue de la fission nucléaire et c'est en 1939 d'ailleurs que deux savants allemands découvrent qu'ils peuvent faire éclater un noyau d'atomes d'uranium en fragments beaucoup plus petits. Cette réaction s'accompagne de la libération d'une grande quantité d'énergie et cette réaction est donc la fission nucléaire, source de l'arme nucléaire. Les premiers à utiliser la bombe atomique, c'est en effet donc les États-Unis qui l'ont utilisée, on le sait tous, sur le Japon afin de mettre définitivement fin à la Seconde Guerre mondiale. Nous développerons ce sujet dans quelques instants, mais en attendant, il faut savoir que le projet de la bombe atomique a pris toute son ampleur aux États-Unis seulement à partir du 2 août 1939, après que Albert Einstein ait envoyé une lettre directement au président des États-Unis, donc Roosevelt, afin de le mettre en garde sur l'avancée des nazis en termes d'armement nucléaire. Donc les efforts des États-Unis sur les recherches nucléaires portent leurs fruits dans le plus grand des secrets au lancement du projet Manhattan sous la direction du physicien Robert Oppenheimer et du général Leslie Groves en 1942. De très grands noms de la physique et des mathématiques sont affiliés à ce projet, comme par exemple Richard Feynman, Edward Teller ou encore même John von Neumann. Au final, il y aura eu plus de 130 000 personnes employées sur ce projet. Donc retenez bien ce nombre, on va pouvoir le comparer plus tard avec le nombre de morts au Japon. Donc au niveau mondial, c'est tout simplement le plus grand projet scientifique jamais réalisé dans l'histoire de l'humanité. Et c'est donc enfin le 16 juillet 1945 que les États-Unis testent pour la première fois leur arme nucléaire au plutonium qu'ils auront appelé Gadget dans le désert du New Mexico. Et après cet essai réussi, les États-Unis vont aller plus loin, les États-Unis vont aller trop loin jusqu'à même dépasser les limites morales. Et c'est le 6 et le 9 août 1946 que les États-Unis lâchent deux bombes nucléaires, Little Boy et Fat Man, sur les deux villes japonaises tristement célèbres désormais, Hiroshima et Nagasaki. Le bilan humain est dramatique. Le nombre de personnes mortes est estimé entre 103 000 et 240 000 morts sur le coup, ajouté à ce nombre des blessés ayant des séquelles à vie, des séquelles physiques ou des maladies du type cancer, leucémie ou autres maladies graves dues à l'exposition radioactive. Et cette exposition aussi a contaminé les générations futures à cause des parents. Donc, vous vous rendez compte ? Je vous le disais plus tôt, 130 000 personnes ont été employées sur ce projet. Les plus grands physiciens et mathématiciens ont porté ce projet jusqu'à sa réussite. Mais tout ça dans quel but ? Mettre fin définitivement à la Seconde Guerre mondiale ? Oui, mais surtout tuer plus de 200 000 citoyens japonais innocents. Il y aura eu plus de personnes tuées par ce drame de la bombe nucléaire que de personnes ayant participé à sa création. Et c'est là donc qu'on peut se poser la question, qui est responsable de ce drame ? Toutes les personnes ayant intervenu de près ou de loin dans l'élaboration de l'arme nucléaire ? Seulement les mathématiciens, physiciens et ingénieurs ayant créé et, entre guillemets, inventé l'arme nucléaire ? Simplement les décisionnaires ? Ou même, pour réduire au minimum les responsables, les bombardiers ayant largué la bombe ? Les avis sont partagés, mais aux yeux du monde, ces deux bombardements sont des crimes contre l'humanité commis par les États-Unis en général. Mais la question de qui est réellement responsable reste ouverte. Les 130 000 personnes ayant travaillé sur ce projet ont certainement toute leur part de responsabilité, mais bien évidemment à des échelles différentes. Et toi, Souleymane, qu'en penses-tu ? Qui est responsable de ce bombardement ?
Eh bien, on aura la réponse tout de suite dans le débat, dans le premier débat. Merci beaucoup, Hugo, pour cette chronique peu joyeuse, mais vraiment très intéressante.
Avec plaisir.
Donc, nous passons tout de suite au premier débat. sur l'ingénieur et ses responsabilités dans ses innovations. Donc on est en compagnie de Agathe.
Bonjour à tous.
Bonjour Agathe, ça va ?
Ça va très bien, merci.
On est aussi en compagnie de Fatine.
Salut, salut.
Et en compagnie de, d'Antoine et de Grégoire.
Salut.
Salut.
Donc moi, j'ai envie de vous poser une question par rapport aussi à ce que vient de nous raconter Hugo. Quelle est la place de l'ingénieur, déjà d'un point de vue juridique, dans ces innovations ? Est-ce qu'on doit le tenir pour responsable ? Est-ce que c'est vraiment lui le responsable de toutes les conséquences que vont avoir ces innovations ?
Du coup, personnellement, non, je pense que c'est pas possible, puisque juridiquement, en fait, une invention, elle appartient à celui qui possède le brevet. Et dans beaucoup de cas, en fait, les ingénieurs travaillent pour des entreprises privées, donc c'est l'entreprise privée qui possède les brevets. Donc par exemple, quand il y a des dérives, en fait, c'est l'entreprise qui est fautive et pas l'ingénieur qui a créé. Par exemple, il y a eu un problème avec le viaduc de la Concorde qui s'est effondré en 2006, 30 ans après sa construction, et il s'est avéré en fait que c'était des problèmes de calcul, et c'était donc toute la faute des ingénieurs. Sauf qu'en fait, aucun n'a été sanctionné justement parce que les brevets appartenaient à l'entreprise et pas à l'ingénieur qui avait créé les calculs.
Oui, je pense que d'un point de vue juridique, on sera tous d'accord pour dire que non, ce n'est pas le cas. L'ingénieur n'est pas responsable de ces innovations et des conséquences que cela peut entraîner. En revanche, d'un point de vue moral, je pense que c'est surtout ça, on doit se poser la question sur ça. Est-ce que l'ingénieur doit se poser la question du après ? Lorsqu'il innove, qu'il crée de nouvelles choses, est-ce qu'il doit se poser la question des conséquences que ça aura plus tard, de qui ça pourra affecter, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut changer ? Est-ce qu'on doit développer un côté juridique parallèlement à l'innovation de l'ingénieur ? Comment est-ce qu'on fait ?
Alors, personnellement, je pense que c'est très compliqué de développer un aspect juridique pour répondre à ces questions-là. Je pense qu'effectivement, l'ingénieur doit plus avoir un point de vue au niveau de sa morale. On a vu que par le passé, dans l'histoire, beaucoup d'ingénieurs n'avaient pas vraiment calculé l'impact que pouvait avoir l'invention. Hugo nous en a parlé tout à l'heure, de la bombe atomique. D'ailleurs, Albert Einstein avait dit qu'il regrettait énormément avoir travaillé sur ce projet. Et c'est vrai que dans un monde où notamment le réchauffement climatique arrive, où il va y avoir des enjeux dans les prochaines années très importants pour la survie de la planète, je pense qu'il est très important pour les futurs ingénieurs, que d'ailleurs nous sommes, enfin, j'espère, pour qu'on vraiment on prenne en considération comment vont impacter nos futures innovations, la planète, quoi.
Oui, effectivement. Donc déjà, il faut savoir qu'un ingénieur est jugé responsable sur 3 points, donc au niveau professionnel, au niveau civil et au niveau pénal, juridiquement parlant. Donc peut-être qu'il serait bien et important de rajouter un point au niveau de la morale. Et donc ceci pourrait être fait, par exemple, en enseignant ça en cours, donc dans les écoles d'ingénieurs, etc. Donc pour pouvoir vraiment sensibiliser nos jeunes ingénieurs sur ce sujet, ce qui n'est peut-être pas assez réalisé jusqu'à présent. Donc pour que tout le monde puisse avoir vraiment une vision d'ensemble et globale sur les responsabilités et puis tout ce qui peut se passer après avoir créé une innovation et non pas juste la créer, la vendre et puis c'est tout, quoi.
Oui, je pense qu'il faudrait par exemple que l'ingénieur travaille avec des collaborateurs, que ce travail-là soit qu'il y ait une plus grande prise de recul en fait, et qu'on évite de séparer les différents domaines, que ce soit les sciences sociales, les sciences dures, et que justement on apprenne à travailler tous ensemble, et que peut-être la formation de l'ingénieur soit complétée avec plus de recul, plus de connaissances sur d'autres points de vue que seulement le point technique, en fait.
Oui, c'est ça, parce que là, on a la chance dans notre école, donc à l'Université technologique de Compiègne, d'avoir des matières littéraires qui sont assez obligatoires, entre guillemets, alors que comparé à d'autres écoles d'ingénieurs, il y en a qui n'ont aucune de ces matières-là. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir quand même quelques matières pour vraiment mettre en garde nos jeunes.
Donc pour vous, Le problème d'un point de vue moral, c'est un peu la formation que l'ingénieur a suivie. Donc on accuserait entre guillemets les écoles qui ont formé ces ingénieurs de ne pas leur avoir enseigné les valeurs qu'ils doivent avoir dans la société pour être au profit de tous, ou c'est quelque chose comme ça?
En vrai, moi je pense que oui, il y a une certaine responsabilité des écoles, mais je pense que ce serait vraiment malhonnête de remettre tout ça sur leur dos. Je pense qu'il y a tout d'abord une responsabilité personnelle de l'ingénieur. Je pense que avant tout, ce problème de morale, c'est un problème personnel. C'est un problème que tout le monde doit se poser. Alors oui, c'est bien qu'on soit un petit peu sensibilisé dans les écoles, mais je pense que c'est avant tout une démarche personnelle.
Ouais, je suis assez d'accord. Mais pour revenir, je pense surtout sur le sujet qui est vraiment, est-ce que l'ingénieur il est responsable de ses innovations? Je serais plutôt tenté de dire qu'en fait, l'ingénieur il est responsable vraiment de la conception initiale d'un produit, mais qu'après toutes les dérives qui y sont liées. Ça, malheureusement, il ne peut pas en être responsable. Par exemple, je pense que l'intelligence artificielle, ça a été quelque chose de très bien qui a été développé pour améliorer le monde. Mais quand on regarde, par exemple, l'exemple que la Chine en a fait, avec la reconnaissance faciale, tout ça, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une bonne innovation. Mais pourtant, je ne pense pas qu'on peut en vouloir aux premiers ingénieurs qui ont créé l'intelligence artificielle, parce que, bah, justement, il y a eu des dérives par rapport à ça. Pareil pour la bombe nucléaire, je pense.
Mais peut-être à ce moment-là, ce serait peut-être à ce moment-là à l'ingénieur de se poser la question, justement, des dérives que ça peut provoquer, et à ce moment-là de s'entourer d'experts dans ces domaines-là pour éviter justement ce genre de dérives et d'apporter un cadre juridique avant que l'innovation soit, soit sur le marché et complètement dérivée.
Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses par exemple qu'il faudrait mettre des sanctions pour les ingénieurs qui font des fautes de ce type-là, justement s'ils ne respectent pas vraiment les lois qui sont mises en place et tout, ou pas?
Je pense que c'est... que justement, permettre à l'ingénieur de s'entourer plus pour avoir une plus grande prise de recul et pouvoir prendre en compte plusieurs critères dans son innovation, ça ferait que les conséquences ne se retourneraient du coup pas forcément contre lui seulement, mais plus contre l'équipe. Mais du coup, ce serait plus justifié puisqu'ils auraient pris la peine d'être plus pour y réfléchir de manière plus globale. Et donc à ce moment-là, ce serait injustifié que la faute ne revienne que sur lui.
Ouais, mais du coup, dans certains cas, tu penses pas que ce serait difficile de savoir qui est vraiment responsable? Par exemple, genre s'il y a un accident d'une voiture autonome, qui est-ce qui serait responsable entre l'équipe technique ou alors vraiment si c'est vraiment la faute de la voiture ou si c'est la faute de l'ingénieur qui est derrière tout ça, tu vois?
Bah, c'est vrai qu'après, toute innovation a ses risques. Et donc, même si on ne peut pas mettre de coupable précisément, du coup, avec une innovation de la sorte, au moins quand on travaille en équipe, après, on peut penser, donc, comme l'a dit Agathe, à plus de choses, donc à tout ce qui est un petit peu derrière, parce que quand on fait une innovation, après, c'est sûr que c'est difficile de penser à tout ce qui va se passer après, comment les humains vont l'utiliser, etc. Donc, comme ce que tu avais dit, là, au niveau des innovations, elles ne sont pas forcément d'une mauvaise pensée au début et que c'était quelque chose de bien, mais après ça a été mal utilisé. Donc ce sera probablement, enfin je pense que ce sera toute l'équipe qui devra être jugée parce qu'elle elle se sera mise dans le projet. Et donc une fois que tu t'es mis dedans, tu fais ça jusqu'au bout et après il faut assumer donc ses responsabilités.
Mais du coup, je pense qu'il y a aussi, il y a aussi un petit peu l'effet inverse. Je prends un exemple, par exemple le GPS qui a été inventé donc pour des solutions militaires à la base. Donc si les ingénieurs donc vraiment avaient pensé à quoi allait servir le GPS à la base, c'était donc pour guider des missiles hein, sur des cibles. Et on voit qu'aujourd'hui ça a été dérivé cette innovation pour se repérer partout dans le monde grâce à des satellites. Et donc c'est vrai que on peut se poser la question si jamais ils avaient jugé pas bon justement de développer cette technologie, peut-être que finalement on n'aurait pas eu une invention qui, on peut le dire, a révolutionné la géolocalisation dans le monde.
C'est sûr, après, il y a eu des débuts à tout. Donc, après, forcément, le premier ingénieur qui a créé le GPS, donc forcément, il ne va pas penser à tout ce qui aurait pu se produire aujourd'hui. Mais du coup, après, il y a une succession d'ingénieurs, en fait, qui vient rajouter des nouvelles fonctions à cette même création, etc. Donc, c'est ça aussi qu'on peut se demander. Quel ingénieur devrons-nous juger? Enfin, par exemple, si quelque chose de mal se passe à cause, restons sur l'exemple du GPS, quel ingénieur précisément devrons-nous juger le premier, le dernier qui a fait une modification dessus, etc. Enfin, c'est assez complexe. Donc, qu'en pensez-vous?
Je pense que la sanction ne peut pas être appliquée qu'à un seul homme. On ne peut pas vraiment punir l'ingénieur qui aura produit tout ça. Mais parallèlement à ça, il faut vraiment nous sensibiliser du coup, à ces enjeux-là et vraiment compléter notre formation en nous faisant prendre plus de recul. On ne peut pas se contenter de penser qu'aux conséquences techniques, mais on ne pourra pas non plus nous porter complètement responsable de ça en tant qu'un seul homme, mais parallèlement à ça, il faut nous sensibiliser, je pense.
Ouais, je suis d'accord, il faut se sentir plus responsable aussi dans ce qu'on fait, parce que c'est vrai que des fois, même en cours, on a tendance à nous faire bosser sur des projets et on ne sait pas vraiment les responsabilités que ça pourrait avoir à grande échelle. Et je pense du coup, c'est vraiment important d'avoir un regard à grande échelle sur ce qui pourrait arriver par la suite.
Eh bien, merci à vous quatre pour ce débat vraiment très intéressant. On va tout de suite passer maintenant à une chronique réalisée par Julien. Bonjour Julien, comment ça va ?
Salut à tous.
Sur quoi va porter ta chronique ?
Alors, elle va porter sur l'évolution du métier d'ingénieur et de ses responsabilités.
D'accord, c'est à toi.
Ok, alors aujourd'hui, on vous propose une chronique sur donc l'évolution des responsabilités de l'ingénieur. Nous allons donc retracer les changements du métier d'ingénieur au fil des siècles pour mieux comprendre l'évolution de ses responsabilités. Alors, les premiers ingénieurs sont sans aucun doute apparus dès l'Antiquité. Ce sont les architectes, les bâtisseurs qui inventent nos édifices religieux, pavent nos routes et construisent nos arènes. Les ingénieurs doivent servir une cause religieuse ou royale et ils sont demandés et récompensés par le souverain. Il ne pouvait être envisageable pour un citoyen même de haut niveau d'engager un architecte pour un ouvrage privé. On peut citer par exemple Archimède de Syracuse, les bâtisseurs romains ou les Égyptiens, qui sont de parfaits exemples de cette période dédiée à la construction de monuments. À l'époque moyenâgeuse, l'ingénieur était tout autre chose. Il désignait l'homme édifiant les engins permettant d'attaquer les forteresses, telles que les échafaudages mobiles, les palustres ou les béliers pouvant enfoncer les portes de l'ennemi. Il s'affichait également dans l'art martial par ses compétences de stratège durant les sièges. À cette époque, l'ingénieur est en général un architecte, technicien, inventif et rationnel. Ainsi, l'ingénieur sollicité par le souverain possède déjà de lourdes responsabilités. De son travail dépend la vie de civils et de soldats. On peut citer quelques ingénieurs militaires comme le marquis de Vauban qui a notamment permis la défense du royaume de France à l'aide de ses fortifications, ou bien Léonard de Vinci qui inventa le char d'assaut. À l'époque moderne, l'ingénieur aménage des ponts métalliques, des routes et alimente également les villes en eau. Mais c'est avant tout un concepteur de machines et de moteurs donnant l'impulsion à la révolution industrielle. Il devient porteur d'inventions et d'innovations. Sa force de travail fait de lui une figure héroïque, un soldat de la technologie mis en valeur aux expositions universelles. Ses scientifiques dressent des plans descriptifs, des schémas, des cartes et définissent et partagent les travaux à accomplir dans un but d'efficacité, de gain de temps et de financement. Le métier d'ingénieur est alors un métier de prestige destiné au bien de la communauté. On peut par exemple retrouver dans cette période l'un des ingénieurs français le plus connu, Gustave Eiffel, auteur de la Tour Eiffel comme de nombreux ponts et viaducs. Avec la deuxième révolution industrielle, l'ingénieur conduit des recherches appliquées dans les usines. Il conduit des projets avec plusieurs de ses confrères. De nombreux enjeux sont désormais à respecter. La responsabilité juridique de l'ingénieur s'étant notamment accrue sous l'influence des mentalités, il est maintenant nécessaire de trouver un responsable aux dommages causés et un débiteur pour réparer financièrement ces dommages. La responsabilité juridique se développe aussi par une facilitation de l'accès à la justice. L'ingénieur a désormais un devoir de conseil, de préconisation et de sécurité vis-à-vis du client. La troisième révolution industrielle, bercée par l'apparition de l'informatique, inclut actuellement de plus en plus des enjeux démocratiques, sociaux et environnementaux. Les ingénieurs doivent alors davantage sonder la population, étudier les risques environnementaux et les désavantages pour les civils d'une mise en place de chaque projet. Enfin bref, le métier d'ingénieur évolue en même temps que ses responsabilités. Et vous, cher ingénieur, saurez-vous faire face à vos défis de demain ?
Voilà. Eh bien, merci Julien pour ta chronique vraiment intéressante. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag les échos de l'innovation. Donc on va faire de suite quelques minutes de pause musicale. Restez bien connectés, à tout de suite sur Graphite 94.9. We'll be right back. Eh bien, on est de retour sur Graphite 94.9 avec l'émission Les Échos de l'Innovation pour vous présenter un petit quiz réalisé par Guillaume. Comment ça va, Guillaume ?
Ça va très bien, écoute.
Bonjour, ça va très bien.
Salut, Guillaume. On a aussi l'immense chance d'être avec Ilyes.
Bonjour à tous.
Oh, la chance.
Et d'être avec Hugo.
Ouais, ouais.
Et enfin, on a un nouvel invité aussi qui s'appelle Julien.
Salut à tous.
Du coup, bonjour à tous les amis. J'ai un petit quiz que je vous ai préparé sur quelques technologies qui ont mal tourné
Let's go.
Les derniers siècles. Du coup, tout d'abord, je vais vous parler d'un exemple que vous connaissez peut-être. C'est le smartphone de la marque Samsung sorti en 2016.
Ah ouais, ouais.
Le Galaxy Note 7, qui a dû être retiré du marché après son lancement. Ceci a coûté près de 4,5 milliards d'euros à l'entreprise.
Ça fait beaucoup.
Je vais vous donner, ouais, c'est énormément d'argent. Je vais vous donner quelques raisons. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Première raison, lors de la charge, le dispositif pouvait atteindre des températures autour des 90 degrés Celsius et a causé des brûlures chez les utilisateurs.
Ah ouais.
Deuxième option, le dispositif avait tendance à exploser dû à des courts-circuits dans sa batterie.
Ah.
Et troisième option, il était dangereusement radioactif.
Je crois que j'ai déjà entendu ça, des téléphones qui explosaient quand ils chargeaient. Donc je pense que c'est pas l'impact de la bombe nucléaire, mais je pense que c'était ça en gros.
Ouais. C'est assez connu, ouais. Moi je dirais pareil, ils explosaient là.
Après, il y en a certains qui chauffent vraiment énormément, donc je pense qu'il y avait un problème là-dessus au début. C'est possible pour moi, ouais.
Ouais, du coup, en fait, c'est un problème avec les composants qui n'avaient pas la place quand ils réchauffaient de s'expandre. Justement. Et du coup, ça a provoqué plusieurs explosions et ça a été terrible pour 5% des utilisateurs de Samsung.
Tu fais charger ton téléphone.
Ils explosaient carrément dans les mains, quoi. Enfin,
ouais, ils prenaient feu et ils explosaient après.
Au réveil, t'es content.
Ouais, voilà. C'est dangereux en plus. Hein.
Deuxième petite innovation, l'Apple Newton. On part aux années 90. Après le succès du Macintosh en 1984, l'entreprise américaine cherche à créer un nouveau produit pour se démarquer. Avec un écran tactile sans clavier et un stylet pour piloter, il fut présenté comme une nouvelle révolution de l'histoire de l'informatique. Tout d'abord, est-ce que vous avez entendu parler de ce produit ?
J'ai pas compris ce que c'était.
Moi, je n'ai jamais entendu parler. Ça ressemble à une tablette, comme
c'est une tablette avec un petit stylo pour la contrôler.
En 90 ?
93.
Ah ouais, c'est vieux. Bon, j'ai jamais entendu, non ?
Ouais, pareil.
Du coup, il y a une raison pour laquelle vous avez jamais entendu parler. Alors, première raison, il coûtait entre 5 000 et 8 000 dollars.
C'est pas ça.
Deuxième option, il était très imprécis sur la reconnaissance d'écriture. Du coup, comme on devait écrire dessus, il captait rien. Ouais. Troisième, il pesait 2 kilos pour être, pour être un engin de poche, c'est problématique.
Pas trop pratique.
Ouais. Et quatrième option, il avait un design extrêmement moche.
Ah. Bon, venant d'Apple, ça m'étonnerait parce qu'ils mettent trop d'argent dans le design. Quoi.
Mais je pense que, à part la deuxième, les trois autres sont dérangeantes, mais il y aurait quelques pigeons qui auraient pu l'acheter quand même. Donc j'y verrais plutôt la deuxième parce que c'est vraiment celle qui le rend inutilisable. Quoi.
Moi, je pense que c'est vraiment le poids de l'objet, il est vraiment trop important.
Ouais, parce qu'à l'époque aussi, c'était vraiment des trucs hyper lourds.
Si c'était vraiment le poids, ils l'auraient même utilisé chez eux. Là, vraiment, j'avais jamais entendu parler de.
Ouais, c'est vrai.
Hugo a raison, c'est la deuxième. En fait, les premières versions du Newton ne marchaient pas. Et du coup, ça a créé une mauvaise réputation pour l'objet qui, par la suite, marchait bien. Mais en fait, le début était si mauvais que ça a induit des problèmes. Maintenant, une petite innovation un peu dans la médecine, etc. Est-ce que vous connaissez l'outil de modification d'ADN CRISPR-Cas9, je sais pas si je
l'ai. Bien sûr, je l'utilise tous les jours.
Ouais,
moi
aussi. Ouais, c'est des ciseaux, c'est ça, un peu comme des ciseaux.
Pour le petit-déj, tu utilises.
Ouais, c'est ça.
Du coup, cette technologie est appelée révolutionnaire dans la médecine, mais aussi a été qualifiée par la CIA comme arme de destruction massive. Ah
ouais. D'accord.
Du coup, okay. Pourquoi est-ce qu'elle est considérée dangereuse ?
Elle est exposée, elle aussi ?
Non, pas encore. Okay. Du coup. Est-ce qu'elle permet le découpage de gènes et entraîne des mutations inattendues ?
Ça serait stylé.
Deuxième option, elle donne la possibilité aux parents de choisir les caractéristiques de leurs enfants.
C'est trop belle, ça.
C'est le cas, ouais.
Troisième option, elle a été utilisée illégalement par un scientifique chinois pour modifier 2 bébés et les rendre immunes au VIH, mais ça s'est mal passé. Et quatrième option, ça permet de ramener les dinosaures en vie et Jurassic Park.
Ça serait incroyable, ça. En vrai, la deuxième, ça devrait être grave stylé. Genre, tu peux choisir un peu comment il serait ton gamin.
Ouais, un peu à la Guernica. Je sais pas si vous avez vu le film, mais bref. Voilà. Dans Guernica, c'est un peu ça, mais... Ouais, je sais pas, en vrai. Je me dis que celle des bébés chinois, j'en avais entendu parler, mais je sais pas si ça a mal tourné. Mais je sais qu'il y a des bébés chinois qui ont été créés, ouais, bizarre.
Il se passe des trucs bizarres.
Ouais, je pense que tu l'as bien développé, celle-là, et je pense que du coup, c'est cette réponse.
Il y a eu un scientifique chinois qui a illégalement fait des tests dessus, et du coup, ça s'est pas très bien passé, parce que c'est quand même très dangereux, et ça a causé des mutations, du coup. Du coup, la réponse 1 était aussi partiellement vraie. Okay, bon, okay. Petit piège, voilà. Et pour finir, je vais parler de quelque chose que tout le monde consomme tous les jours, l'héroïne. L'héroïne a été synthétisée pour la première fois en 1874, mais surtout, elle est commercialisée en 1898 par Bayer comme médicament contre la toux.
Ah ouais.
Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Mais...
J'utilise ça fréquemment quand je tousse.
Est-ce que vous pouvez me donner... Bon, je vais vous donner des notions pourquoi ce médicament a pu mal tourner. Alors, première option, il est difficile à consommer car il demande beaucoup de matériel. De type cuillère, seringue, etc. deuxième option, elle est peu effective contre la toux. Du coup, ouais, ça ne marche pas. Troisième, elle fut rendue illégale en 1924, ce qui réduisit sa popularité. Ou finalement, car elle provoque une énorme dépendance et est responsable de dizaines de milliers d'overdoses annuellement.
Ah, je me demande laquelle est la bonne.
Les 3 et 4, en vrai, pourquoi pas.
Ouais, 3 et 4, les deux sont vrais.
Les deux sont vrais.
Ouais, Hugo, c'est fort, 500% là.
J'ai gagné quoi ?
Une bière.
Let's go.
Du coup, voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez profité.
Eh bien, merci à vous pour cette séquence vraiment, vraiment joyeuse. On va enchaîner maintenant avec un deuxième débat portant sur les valeurs de l'étudiant futur ingénieur et la demande dans le monde du travail. Donc nous sommes en compagnie des mêmes personnes que le débat 1, donc Agathe, Fatine, Antoine et Grégoire. Donc Donc moi j'aimerais commencer le débat en vous posant une question. Donc est-il éthiquement concevable de construire une innovation allant à l'encontre de ces valeurs? Surtout que nous, en tant qu'ingénieurs, en tant qu'étudiants ingénieurs, est-ce que pour vous, on peut vraiment éthiquement être capable de concevoir des innovations qui vont avoir un impact sur la population et qui vont aller à l'encontre de nos valeurs?
Alors juste, du coup, pour répondre à cette question, il faudrait revenir sur juste ce qu'est l'éthique, clairement. Donc, pour rappeler à tout le monde que l'éthique donc, a pour objet de dire quelle est la conduite la plus appropriée pour une organisation ou une personne en prenant en compte donc, son impact déjà sur l'environnement et sur les parties prenantes. Donc, ce n'est pas en fait pour vraiment venir définir le bien et le mal, s'agit de la morale. Donc, voilà.
Oui, donc pour rebondir sur ta question, c'est vrai que notamment avec le dérèglement climatique, il y a une vraie fracture en fait, entre le travail et les valeurs, notamment avec les valeurs des nouveaux étudiants qui arrivent sur le marché du travail. Je pense qu'on est un peu tous concernés ici. Et c'est vrai qu'il devient un peu difficile de se sentir bien dans son travail. Certains ont tendance à déserter, d'autres ont envie de rester dans la voie qu'ils ont choisie, mais ils se trouvent un peu perdus, ils ne savent pas trop comment faire, ils se sentent... il y a un vrai mal-être, en fait. Il y a une vraie dissonance cognitive en fait, entre la manière dont pense le monde et la manière dont nous le percevons. Et ça peut créer quelques malaises. Et donc on se pose la question, faut-il déserter, démissionner, abandonner le combat ou rester et se battre, et comment faire?
Ouais, c'est vrai, tu as raison. En plus, il y a une réelle dissonance cognitive entre ce qu'on nous propose en cours et la réalité du monde professionnel. Parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises, malheureusement, mettent l'accent sur l'aspect économique. Je me souviens, lors de mon stage ouvrier, j'avais travaillé dans une entreprise. Et en fait, il y avait une alternative plus durable pour un matériau qui pouvait être utilisé. Mais ils préféraient utiliser l'aluminium, en fait, parce que ça coûtait moins cher et c'était plus facile à extraire. Et même si c'était moins bien d'un point de vue environnemental, c'était malheureusement la solution qu'ils avaient choisie.
Après, encore une fois... Je comprends que ça puisse être compliqué pour certains étudiants, notamment dans les temps donc de crise qu'on a vécu. Personnellement, je l'ai vécu. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal après le Covid à trouver un stage. Je sais que j'avais quand même des convictions personnelles et je sais que ça a été très compliqué d'allier les deux. Des fois, on avait des offres d'entreprise qui ne nous plaisaient pas trop, mais on se disait oui, mais finalement, il faut quand même les accepter. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas-là. Il y en a aussi qui sont dans le cas contraire. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y a eu à la remise des diplômes d'AgroParisTech, il y a eu un groupe d'étudiants qui a fait un discours justement pour présenter de nouvelles façons de faire d'autres choses que d'aller dans des grandes entreprises qui finalement ne respectent pas trop notre morale. C'est vrai que c'est intéressant de présenter ces projets-là. Mais moi, je pense aussi aux étudiants qui n'ont pas vraiment le choix et qui se retrouvent obligés de travailler dans ces entreprises-là parce que, tout simplement, ils n'ont pas d'autre choix.
Ouais, c'est ça. En vérité, la fin justifie carrément les moyens. On est des fois parfois obligés de faire des choses un peu à contre-cœur. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles ça ne correspond malheureusement pas à nos attentes, mais on va être obligé d'y travailler un jour ou un autre, justement, pour se nourrir.
Je pense qu'on n'est jamais vraiment obligé. Je pense que c'est surtout à quel prix, quoi. On est à quel sacrifice on est prêt à faire pour justement s'aligner à nos valeurs. C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Il y a une vraie différence entre ce que nous, étudiants, on souhaiterait et le monde du travail, ce qu'il nous propose. Mais je trouve qu'il y a aussi une réelle différence entre nos programmes. L'exemple de l'UTC, mais il y a eu des manifestations à Polytechnique, à Centrale Nantes, à Centrale Paris aussi, à HEC. Il y a une réelle différence entre ce que les étudiants voudraient, que le monde change, que le monde avance, qu'on prenne de réelles décisions pour régler la crise climatique qu'on connaît aujourd'hui, et nos programmes en fait, qui sont du coup adaptés au monde du travail. Et vu que le monde du travail est en retard, en fait, nos formations le deviennent. Et certains se trouvent un peu perdus là-dedans. Est-ce qu'on n'aurait pas rendre obligatoires certaines matières pour justement nous sensibiliser à tout ça? C'est vrai qu'on se rend compte que ces matières-là qui sensibilisent aux enjeux climatiques sont souvent littéraires ou des sciences sociales. C'est jamais vraiment mis en relation avec notre parcours technique d'ingénieur. On ne va jamais apprendre à faire un bilan de force en prenant en compte les enjeux climatiques. Et je trouve ça un peu dommage et pas normal en fait, dans les temps qui courent, quoi.
Oui, ben, moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous aviez dit tous précédemment. Et c'est vrai, donc, aussi, il faut voir en fonction de la place de l'ingénieur. Donc, ça revient un petit peu au débat qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, si on considère l'ingénieur que comme un outil pour créer quelque chose, je pense que nos valeurs ne sont pas mises en jeu. Donc, en soi, si on doit faire quelque chose, si on doit participer à une tâche pour construire quelque chose qui ne nous convient pas forcément, ça ne met pas non plus clairement notre éthique en jeu. Et puis voilà, donc après, comme vous l'aviez tous dit, au niveau économique, c'est sûr qu'après, bon, faut faire des choix, faut faire des sacrifices. Mais au bout d'un moment, si on se met à refuser toutes les propositions d'emploi, toutes ces choses-là, au final, on n'aura plus rien et puis on sera obligé d'accepter quelque chose quand même, même si ça ne nous plaît pas forcément.
Et justement, ouais, pour revenir à cette dimension qu'on abordait tout à l'heure, justement l'aspect éthique, je me suis renseigné un peu sur les pays, les différents pays et les différents cours qu'ils proposent. Et il se trouve qu'en fait, la France est un des pays les moins bien placés en termes de cours d'éthique. En France, on n'a que quelques heures d'éthique par an, c'est estimé. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, alors pourtant, ce n'est pas les mieux placés non plus dans le domaine, mais les étudiants ont 50 heures de cours par an qui est dédié à ce sujet, et ce, pendant leurs 4 ans de cycle ingénieur.
Après, je pense que c'est bien d'être sensibilisé à l'éthique et avoir des cours d'éthique, mais je pense que c'est aussi très important de mettre à jour l'enseignement, parce qu'il y a énormément, donc Agathe en parlait tout à l'heure, énormément de matières où en fait on pense comme l'industrie des années 90 où il faut absolument trouver les meilleurs matériaux pour faire les pièces les plus résistantes possibles, alors qu'il n'y a aucun aspect écologique dans ces matériaux-là qui sont développés en cours. Il y a beaucoup de cours comme ça pour en avoir fait pas mal maintenant dans ma scolarité, et c'est vrai que moi je trouve que le principal problème, donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout assez sensibilisé à l'éthique, mais c'est aussi le fait que les enseignements ne sont pas à jour, notamment avec les échéances qui vont arriver au niveau climatique.
C'est clair, il faudrait en fait permettre aux étudiants qui n'ont pas forcément l'envie de totalement bifurquer, de s'engager dans un parcours totalement différent, notamment comme les étudiants d'AgroParisTech qui parlaient de déserter en fait les métiers dans des grandes entreprises qu'on leur proposait et qui faisaient part de leur envie totalement différente et qui s'orientaient ailleurs. Pour ces gens qui veulent rester dans un parcours plus classique, il y a vraiment un besoin de leur permettre de s'aligner avec leurs valeurs. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc après, on peut, c'est vrai, nous-mêmes s'engager, nous-mêmes se créer ces opportunités-là, notamment dans nos écoles. On peut s'engager dans... On nous offre des opportunités, mais elles sont assez rares. Elles sont peu connues et c'est vrai que je pense qu'il y a un réel manque là-dedans en fait.
Juste pour rebondir rapidement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui prônent donc de complètement changer, de ne pas aller vers les grandes entreprises, de ne pas travailler pour les grandes industries. Mais moi personnellement, je sais que ça m'est arrivé. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai accepté donc une offre de stage pour aller travailler chez Thales. Et je sais qu'il y a certaines personnes donc dans l'école qui ont un petit peu critiqué mon choix en disant que j'allais travailler pour la destruction de la planète, pour une entreprise qui fabriquait des missiles. Alors c'est vrai, l'entreprise fabrique des missiles, je ne travaille pas du tout là-dedans. Je pense aussi qu'il faut respecter le choix de chacun. Moi, je sais que l'aéronautique, c'est une industrie qui pollue énormément, mais j'espère pouvoir travailler pour essayer de l'améliorer. Et je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser les étudiants qui choisissent de rester dans les parcours classiques, entre guillemets.
Ouais, t'as totalement raison. Mais du coup, je trouve ça un peu marrant parce que je suppose que ça, c'est peut-être l'université qui a proposé aussi ce stage ou pas du tout. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres écoles qui proposent par contre des stages comme ça. Et donc, vouloir sensibiliser nos jeunes en rajoutant des cours obligatoires ou rajoutant des heures à ce sujet, mais en même temps proposer des stages comme ça, je trouve ça rigolo, mais en même temps intéressant, parce que comme ça, ça va permettre aux étudiants de faire leur propre choix et en ayant conscience, donc en ayant conscience des risques qui sont pris. Mais et puis voilà, quoi, qu'ils ont un choix, qu'ils font un choix réfléchi et non pas juste comme ça en entendant ce qui se passe, etc. Donc, ouais.
Oui, comme Grégoire l'a dit, il peut aussi faire le choix d'intégrer cette entreprise, mais de faire bouger les choses de l'intérieur, et ce sera sûrement compliqué. Il va devoir faire face à beaucoup de murs, je pense. Mais c'est de toute façon cette énergie-là dont on a besoin pour faire changer les choses. Donc de l'envie, c'est sûr que ça part de là, c'est le moteur. Mais ensuite, on a besoin aussi qu'on nous tende la main et qu'on nous propose des opportunités, parce que c'est assez fatigant, en fait. On ne se sent pas vraiment écouté, on se sent assez seul. Et je trouve ça difficile pour des étudiants qui n'ont pas de moyens, qui sortent de leurs études sans argent, en fait, qui sont dans les premiers métiers, et devoir faire face à tant d'enjeux sans forcément être soutenu par ni leur université, ni leurs futures entreprises. Je trouve ça assez compliqué.
Je suis totalement d'accord. Et en fait, il faut juste... Faut aussi montrer qu'il y a d'autres possibilités pour changer les choses que d'abandonner totalement le métier d'ingénieur et de faire complètement autre chose, ou de travailler dans des entreprises zéro déchet. Parce que, après, c'est une conviction personnelle, mais je pense que si on veut vraiment changer les choses, il va falloir passer par les grandes industries de toute façon, parce que si on les abandonne complètement, on ne pourra jamais les faire changer. Donc je pense qu'il est important de sensibiliser les gens et de montrer qu'il y a plusieurs moyens de lutter à son échelle.
Eh bien, merci Grégoire pour ce mot de la fin. Je vous remercie tous pour ce débat vraiment intéressant. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des étudiants avec beaucoup de valeur et qui sont prêts à essayer de changer le monde de demain et de tout donner pour cela. On enchaîne maintenant avec une chronique en compagnie de Ilyes. Alors Ilyes, comment ça va ?
Bonjour à tous.
Tu vas nous parler de cinéma, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler un peu de cinéma. Parce que bon, il est vrai que quel que soit le sujet, je pense que c'est vraiment super intéressant de voir comment il est traité par les artistes. Mais du coup, là, on va focaliser sur le cinéma et aussi les séries qui sont donc en lien avec notre thème pour l'émission, à savoir l'ingénieur et ses responsabilités. Alors, ce qui peut tout de suite nous venir en tête, c'est peut-être les films avec une technologie dont on a totalement perdu le contrôle, donc avec des robots tueurs fous qui veulent anéantir l'humanité, un peu à la Matrix, à la Terminator ou même à la iRobot. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans tous ces films-là, on parle que très peu de l'inventeur et de ses responsabilités vis-à-vis de ces technologies. On voit surtout en fait les conséquences de ces créations. Par exemple, on ne sait pas qui a provoqué la fin de l'humanité dans Matrix. Et dans le premier Terminator, on ne sait pas non plus qui a créé Skynet. Ensuite, vous allez me dire que dans iRobot, Alfred Lanning, donc le roboticien fondateur de US Robotics, est quand même au centre de l'histoire. Ouais, mais bon, ses responsabilités concernant son invention sont très peu abordées dans le film. C'est normal, en même temps, il meurt dans les 5 premières minutes, donc bon, difficile à développer un peu. Après, il y a quand même des œuvres où donc cette responsabilité, elle est vraiment plus importante dans l'intrigue. Par exemple, et assez étonnamment, dans les Marvel. Bah oui, il y a quand même Tony Stark, donc qui se rend compte que produire des armes, c'est pas ouf. Il en a fait l'expérience sur le terrain et il a pas l'air d'avoir trop kiffé. Ah ouais, mais bon, il a quand même créé une autre arme pire pour régler le problème, à savoir son armure. Ah ouais, mais bon, ça suffit pas, donc il a créé une arme encore pire, à savoir Ultron. Ah ouais, mais bon, Ultron, il devient méchant, donc il fait quoi ? Bah, il crée une autre arme encore pire pour régler le problème, à savoir Vision. Ouais, le gars, il n'arrive pas trop à apprendre de ses erreurs. Ensuite, donc, on a également le film Clone, avec un S, donc. Je ne sais pas si vous connaissez ici, mais il est sorti en 2009, et c'est avec Bruce Willis qui joue le rôle principal. Donc, ça prend place dans une société futuriste, où tout le monde peut acheter un corps artificiel sans défaut, et le contrôler à distance depuis chez eux, un peu avec un casque VR dans leur lit. Donc, c'est une histoire d'enquête, somme toute assez classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le créateur de ces technologies de clones, il a vraiment une grande part dans cette histoire, avec un plot twist que je trouve vraiment très intéressant à la fin. No spoil, bien sûr. Ensuite, dans le même genre, on a également la série Netflix, Altered Carbon. Je pense que vous avez peut-être entendu parler à sa sortie, mais maintenant, on n'en entend plus trop parler. Ou bon, c'est vraiment quasi le même synopsis que Clone, avec un S. Ils ont quasiment copié-collé le script, avec quand même une bonne dose d'inégalité sociale en plus, où si t'es pauvre, tu meurs plus tôt, pour bien pimenter le tout. Et donc dans cette série, encore une fois, il y a l'inventeur de cette technologie qui va également devoir prendre ses responsabilités et qui a une part importante dans l'histoire. Encore une fois, no spoil, mais je vous conseille vraiment cette série. Elle a une très bonne esthétique, je trouve. Donc pour résumer, je vous répète, regardez les Marvel avec un regard critique sur Tony Stark et ses responsabilités, le film Clone avec un S et la série Altered Carbon sur Netflix. Voilà, merci à tous.
Merci à toi Ilyes, franchement il y a pas mal de trucs que j'avais pas vu là, tu m'as donné envie d'aller voir avec tes no spoil là.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Eh bien merci à vous pour de nous avoir suivis durant cette émission. À la semaine prochaine, n'hésitez surtout pas à réagir sur le hashtag Les Échos de l'Innovation et abonnez-vous aux réseaux sociaux de la radio et merci à tous pour vos interventions. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Club overnight.